Maintenant, je vais vous présenter la conférencière de ce soir. Donc, c'est Françoise Gède, architecte historienne. Elle est chercheure et responsable de l'Observatoire de l'architecture de la Chine contemporaine. Pour son parcours, 1984, architecte DPLG. En 2001, habilitation à diriger des recherches. De 1997, à ce jour, chercheur à la direction de l'architecture et du patrimoine, ministère de la Culture et de la Communication. Responsable du programme de recherche sur les villes historiques chinoises à l'Université de Shanghai et de 1997 à ce jour, chargée de cours à l'INALCO sur l'architecture et l'urbanisme en Chine. Pour sa spécialité, Françoise Gède est spécialiste de l'urbanisme en Chine, de ses évolutions contemporaines et du développement de l'architecture chinoise. Pour sa bibliographie, elle a écrit de nombreux articles dans diverses revues françaises et étrangères. Shanghai, Habitat et structures urbaines 1842-1995, thèse de doctorat de l'EHESS. Shanghai, portrait de ville publié par l'Institut français d'architecture Paris 2000. Elle a aussi écrit sur la ville de Shanghai dans les guides bleus. Je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat de 20 minutes avec le public. Merci.
Merci et merci à l'Université de Tous les Savoirs de m'offrir cette occasion de parler des villes chinoises. Merci à vous d'être venus si nombreux sur un sujet qui est d'importance. Je voudrais pour ça en prendre pour preuve quelques informations qui sont passées sur la toile le mois dernier. Le taux d'urbanisation actuel en Chine est de 37%. D'ici 50 ans, il est prévu d'atteindre 75%. C'est donc un objectif que s'est fixé le pays, voyant dans l'urbanisation un levier de développement mis en perspective avec le taux d'urbanisation des États-Unis, de l'Asie, de la Corée et du Japon. Il est clair que les villes interviennent pour beaucoup dans la production intérieure brute d'un pays. Et là encore, la Chine trouve qu'elle est à un seuil en deçà de la moyenne nationale dans le monde, enfin de la moyenne mondiale plus exactement, puisque seulement, si on peut dire, 1% de la population chinoise, 11% de la population chinoise, pardon, vivent dans des villes de 1 million d'habitants. Voilà un bouleversement d'importance. La ville en Chine est une entité administrative assez complexe pour laquelle on va trouver aussi bien des métropoles de plus d'un million d'habitants que ce qu'on appelle des cités ou des bourgs. On en compte 20 000 environ en Chine et 662 villes. Actuellement, on a une population urbaine de 480 millions d'habitants. Et l'objectif est donc d'arriver, côté chinois, je vous donne toujours des informations telles qu'elles paraissent dans la presse officielle, et de développer une armature urbaine à la fois à partir de grands pôles, Shanghai, Nankin, Hangzhou. Je vous mets quelques éléments, je ne sais pas si cette carte se voit très, très bien. Donc un premier pôle autour de Shanghai, un deuxième pôle autour du delta de la rivière des Perles et de Canton, et un troisième autour de Pékin et Tianjin. Et puis, outre ces trois grands pôles, bien sûr, toute une armature de villes moyennes. Alors, ce développement urbain, vous avez ici sur cette carte les plus gros points, je vais les désigner comme ça parce que je ne suis pas certaine que vous arriviez à lire les noms, les plus gros points concernent des villes dont la population dépasse les 5 millions d'habitants, les points moyens des populations comprises entre 2 millions et 5 millions d'habitants, et les petits points, celles qui sont comprises entre 1 et 2 millions d'habitants. Comme ordre de référence, vous savez que Paris intramuros a une population de 2 millions d'habitants. La région Île-de-France a une population de 11 millions d'habitants. Mon propos aujourd'hui, c'est à partir de ces quelques effets d'annonce qui peuvent nous donner quelques frissons, de chercher à définir qu'est-ce que sont les villes chinoises, quelles en sont les permanences, quelles en sont les ruptures, et pour cela, de faire un rapide découpage historique qu'est-ce que c'est qu'une ville en Chine? On sait qu'il y a une tradition urbaine de très longue date, à travers les villes administratives, les villes capitales, Luoyang, Chang'an, l'actuelle ville de Xi'an, Pékin. Il y a les années maoïstes de 1949 à l'ouverture de 1979, où la ville est considérée comme un lieu dont il faut se méfier. Vous savez que Mao a rallié avec lui la campagne pour mettre en place la révolution, et donc la ville chinoise est un lieu de consommation qu'il faut transformer en lieu de production. Et puis, ces 20 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous voyons actuellement régulièrement à travers la presse, à travers les médias, sur cette modernité, cette recherche d'une modernité à nos yeux souvent invraisemblable, et sur un patrimoine qui est souvent considéré uniquement avec une valeur touristique. Je vais vous demander, pour ce faire, le temps pour parler d'un pays aussi vaste et de villes aussi différentes n'est pas très long, d'accepter deux principes que je ne vais pas vous démontrer, mais peut-être qu'au fur et à mesure des diapositives et des images que je vais vous montrer, ça va vous paraître un petit peu plus évident. Ce que je vous en dis, c'est la suite d'analyses et d'observations sur le terrain que je mène depuis plus de 20 ans. C'est la confrontation dans le travail direct avec les Chinois de ce que j'observe. C'est d'une part qu'en Chine, nous ne sommes pas dans un pays où l'alternative est un mot courant, mais plus exactement dans le pays du et, point de suspension. C'est-à-dire que vous avez plusieurs facettes, même contradictoires, qui peuvent coexister en même temps. Le deuxième, et il peut vous paraître justement assez contradictoire avec le premier, c'est que vous avez la simultanéité, la coexistence de deux logiques qui sont pour nous apparemment très différentes. L'une qui est une logique de réseau et l'autre qui est une logique d'emboîtement hiérarchique. Et vous allez voir qu'en fait, on a là des permanences qu'on trouve dans l'histoire chinoise des villes et on a là aussi le résultat de ce qui nous apparaît comme des choses très difficiles à comprendre aujourd'hui et notamment une de ses conséquences qui est la très grande porosité entre le secteur public et le secteur privé. Venons-en un petit peu aux images. Donc voilà actuellement cette disposition, cette armature urbaine des villes. Et pour vous en montrer l'enjeu et la place dans la Chine, vous savez qu'il y a cette fameuse bande côtière qui a été particulièrement développée. Sur cette carte qui reprend des données des douanes de la dernière décennie, vous avez la part des importations qui reviennent à la région du delta de la rivière des Perles, de Canton, à celle de Shanghai et ici à celle de Pékin. Donc avec l'ouverture, une ouverture par poche sur justement cette zone côtière. Et vous voyez sur cette carte-ci la part des exportations qui revient à ces villes, ce qui vous permet de comprendre ce que je vous annonçais tout à l'heure en effet d'annonce, à savoir la volonté de la Chine de développer, de se servir de l'urbanisation pour développer le pays. Alors, cette urbanisation, ce n'est pas un phénomène qui commence juste dans ces années-ci. On a sur ce document l'emprise de la surface urbanisée de Pékin en noir à trois périodes distinctes. Sur la carte du haut, vous avez le Pékin de 1951. Sur la carte du milieu, le Pékin de 1959. Sur la carte du bas, le Pékin de 1983. Et on aurait le Pékin de 2003, vous avez pratiquement l'ensemble qui est noir à l'intérieur de ces périphériques. Donc nous sommes déjà dans cette croissance des villes extrêmement forte. Alors, je vous disais que la Chine avait une tradition urbaine de très longue date. J'en prendrai ici pour outil ce document qui a été élaboré par un chercheur chinois et qui montre depuis ce plan à la même échelle ce que peuvent être les villes en Chine, c'est toute cette partie-là, et d'autres villes dans le monde. Vous reconnaissez sans doute ici le profil de Paris, ainsi qu'ici, là nous avons la ville de Londres, là nous avons toujours Paris, et tout en haut, ce sont des capitales japonaises. Donc la première capitale dont on a des plans assez précis, c'est la capitale de Chang'an, sous la dynastie des Tang, donc 6e, 9e siècle après Jésus-Christ. Non, vous voyez ici, à la même échelle, tous ces croquis sont à la même échelle, l'importance par rapport à, on est à peu près ici, aux alentours de l'an 1000, à Paris. Hein, ces documents sont à la même échelle. Vous avez, pour moi c'est très flou, j'espère que pour vous c'est un peu plus net, mais j'ai le nez juste en dessous. C'est très bien. Alors, si c'est flou aussi pour vous, ici nous avons Pékin à l'intérieur de ces murailles, mais puisque le document est flou, je passe au suivant. Ce qui est à... Alors, sur ces capitales, qu'est-ce qui est important à en retenir et sur cette tradition urbaine en Chine ? C'est que nous avons, et je me réfère là à un très bref article qu'avait fait Gernet sur les capitales chinoises, une ville n'est pas tant un groupement de population qu'un territoire. Et ce territoire va être divisé en lots qui vont être affectés à la population. La construction d'une capitale fait l'objet de différentes règles où on va tracer d'une part l'emplacement du palais et le quadrillage des différents quartiers qui, sous la dynastie des Tang, sont clos, à l'intérieur desquels on va redistribuer différentes parcelles qui vont être loties par les habitants. Et ce phénomène de lotissement est donc assuré par l'État. Nous avons là, en fait, une ville, c'est quoi ? C'est un lieu où on peut stocker, échanger, rassembler des produits manufacturés qui viennent de différents lieux. Nous avons là, en fait, une procédure qui n'est pas si éloignée de ce que l'on va retrouver sous les années maoïstes. Avec les contradictions des années 90, vous allez voir un peu plus loin. Donc on était là sur la ville de Luoyang, qui est un site idéal pour une capitale. Vous voyez ici, peut-être c'est un peu plus clair. Non ? Bon, on va passer. C'est ce principe donc des quartiers fermés. Et une ville n'est donc pas seulement... Passez à la suivante, parce que s'il ne voit rien, ça se... Non, mais il y en a d'autres, vous inquiétez pas. Désolé pour la mise au point, mais l'appareil refuse d'aller au-delà. Donc, à travers ces grandes villes administratives, ces capitales, il y a un allotissement des terrains qui est fait, mais tous les terrains ne sont pas construits. Vous avez par ailleurs un autre type de ville qui va commencer à voir le jour à partir de la dynastie des Song, à partir du 9e siècle, et le développement, la prospérité chinoise sont des villes commerçantes. Et le terme de ville est lui-même, en chinois, constitué à partir du terme de muraille. Donc une ville est bien un lieu délimité, enceint par des murailles. Et là, vous avez sur les villes commerçantes, qui représentent une très grande majorité des villes chinoises, vous n'avez pas un quadrillage aussi régulier que ceux des villes capitales, avec la représentation d'un pouvoir. On va passer à la suivante assez vite. Ces villes capitales, elles vont très régulièrement se reconstruire sur le même site. Pékin a été 3 fois capitale avec des sites. Ici, on a le site de Pékin capitale sous la dynastie des Qin. On va l'avoir sous la dynastie des Yuan avec la muraille dont on en perçoit encore la trace parfois dans le Pékin actuel, qui va être reprise sous la dynastie des Qing, ici. Donc, une forme très régulière, et le même processus, où à l'intérieur de ces grandes avenues, on va déterminer, à la fois pour des logiques de transport, les rues ont un certain nombre de pas, d'unités de mesure de l'époque, si vous voulez, pour permettre le passage des voitures. On va déterminer des lots dans lesquels les habitations peuvent être construites, qui font sur Pékin 15e d'hectare, ce qui nous donne une trame très régulière de la ville, avec ces fameuses ruelles, ces fameux rondons qu'on peut voir sur la carte suivante. Je vais vous aider à la placer dans le bon sens. Si, si, c'est bien ça. Dans l'autre sens. Ces fameux axes que vous voyez là, avec ces ruelles qu'on appelle des routongs, et à l'intérieur, un modèle d'habitation assez similaire. J'ai fait exprès de vous prendre un extrait où on est au nord de la cité interdite avec les lacs, pour vous montrer que même avec une configuration de terrain différente, à l'intérieur, ces ruelles sont toutes composées de la même manière. Alors cet habitat, quel est-il ? Habitat traditionnel, toujours. C'est à l'intérieur d'une maison à cour. L'architecture chinoise est, là encore, entourée de murs, le bâtiment d'habitation, avec une succession de seuils qui permet d'arriver à l'espace le plus important, qui est à l'arrière de la maison. Sur la rue, on a plutôt le service, puis le pavillon d'accueil des invités, et en fonction du rang social qu'on a à l'intérieur de la famille même, les différents bâtiments à cour. Et toute construction d'habitation va être un module plus ou moins grand de ce modèle-là, à travers toute la Chine, puisqu'on va le voir sur l'image suivante. Ça, c'est la maison à cour carré de Pékin, le Sereyuan. Voilà ce que ça donne ici sur un habitat des Minori Bai dans le Yunnan. Vous voyez toujours cet ensemble enclos avec une disposition autour d'une cour. Et là, on peut décliner à partir de ce modèle que ce soit trois côtés, quatre côtés qui soient occupés par les bâtiments d'habitation. Donc, à l'intérieur de ces fameux quartiers que je vous évoquais, qu'on va appeler Li en chinois, Li correspond aussi bien à une unité de mesure qu'à une unité de dénombrement d'une population villageoise. Donc, une ville est un ensemble de quartiers qui sont assez peu communicatifs les uns entre les autres, regroupant des communautés de villages. Voilà la tradition urbaine chinoise. On va maintenant voir à travers des diapositives ce qu'il en est. Je vous en présentais là donc les grandes catégories des villes, et en quelque sorte, la ville chinoise serait une ville sans urbanité. On n'a pas d'espace public. On n'a pas de place où se commémorent des événements en commun. Et on n'a pas de rue, véritablement espace public dans lesquels on aime à se promener, tel qu'on pourrait les trouver dans une cité médiévale. On n'a pas de représentation sur rue d'édifices remarquables. Les années maoïstes vont, elles, avoir pour objectif de transformer ces villes en des lieux de production. On va avoir de ce fait, à l'intérieur des villes, toute une série d'usines qui vont être construites, soit à l'intérieur de ce bâti que je vous présentais tout à l'heure, et qui va... Peut-être on peut arrêter ça. Non. Qui va, sur Pékin, venir s'insérer à l'intérieur de ce tissu. Vous avez là une représentation en maquette du Pékin des Yuan avec l'emprise qu'avait la cité interdite et donc ce découpage très régulier des ruelles, des routongs, précisément ceux qui sont en train de disparaître actuellement. Et là, les années maoïstes vont finalement garder des permanences de la tradition chinoise classique. D'une part, je vous disais que sur cette tradition de construction des villes, il s'agissait d'un territoire beaucoup plus qu'un regroupement de population. Qu'une ville pouvait être elle-même partagée entre deux territoires administratifs, deux sous-préfectures, ce qui nous semblerait impensable suivant notre manière de voir ici en Occident. En fait, on va retrouver à partir des plans quinquennaux, à partir de la planification urbaine, exactement le même type de principe, dans la mesure où vous n'allez pas avoir de gestion urbaine et du foncier. Vous n'allez pas avoir de gestion foncière donc, par l'État, mais la primauté d'objectifs quantifiés que doit pouvoir atteindre un territoire urbain. Je vous en dis d'abord quelles en sont quelques grandes conséquences et quels sont les paradoxes de cette période, avant de passer à la vision sur quelques images de ce que ça représente. Donc les conséquences de cette vision de l'aménagement, si on peut dire, de la ville, c'est que vous allez avoir d'une part beaucoup de gaspillage de terrain. Or, la Chine manque de terrain. Elle est pauvre en terres agricoles et toute construction urbaine qui déborde sur l'espace agricole est particulièrement dangereuse. Vous allez aussi avoir une utilisation de fait assez désordonnée des terrains, dans la mesure où... Et là, ça va ? Donc, je reprends aux conséquences. Vous avez d'une part, compte tenu du cloisonnement administratif qu'il y a en Chine et de cette primauté des objectifs économiques pendant ces années maoïstes, 1949 à 1979, vous allez avoir un certain gaspillage de terrain, une utilisation assez désordonnée des terres, comme je vous l'évoquais sur Pékin, avec la construction de petites unités industrielles à l'intérieur de ce terrain. Vous allez aussi avoir la construction illégale qui va être faite sur des terrains bloquant la réalisation de projets ultérieurs. Si je prends un exemple, vous êtes... une industrie de production de boîtes d'allumettes. Vous avez différents terrains, ils vous ont été alloués. Vous allez construire sur certains, même s'ils sont distants à travers la ville. Et à partir de là, si un de vos voisins veut lui-même utiliser le terrain qui est connexe et qui est le vôtre, même s'il n'y a qu'un appentis, il ne pourra pas y avoir accès. Donc, une gestion foncière absolument inexistante. Et aussi en parallèle, une existence cachée du foncier, dans la mesure où les hauts fonctionnaires vont habiter dans les beaux quartiers des villes et les autres non. Donc même si nominalement le terrain appartient à l'État, vous avez toute une série d'effets pervers qui commencent à se mettre en place. Et bien que le terrain appartienne à l'État chinois, les instances qui le représentent au niveau municipal ne peuvent pas véritablement en disposer pour mettre en place des projets. Donc, les conséquences sur la ville, je vous propose de les... Me voilà devant un paradoxe terrible. Je ne dois pas m'approcher de ça et je dois appuyer sur ces boutons en même temps. Voilà. Donc voilà le Pékin, ville capitale, ville interdite, comme on pouvait en trouver encore un certain nombre en Chine, comme Pingyao, ville classée au patrimoine mondial, qu'on appelle le petit Pékin. Et ces caractéristiques que je vous évoquais, une ville, c'est d'abord des murs, et que ce soit ceux qui sont à l'intérieur de la cité interdite ou ceux qui... isole la cité interdite de ses alentours immédiats. Et ce principe, on le retrouve dans les rues. On est là sur une rue tout à fait ordinaire aux abords, pas très loin du quartier du Temple de Confucius à Pékin, vous voyez qu'une ville, c'est des murs qu'on longe. C'est aussi un espace qui est donc hiérarchisé à l'intérieur, qu'on marque par des seuils pour montrer quel est le rang des personnes auxquelles on s'adresse et qu'on autorise à accéder dans un lieu ou un autre. Et ces principes, on les retrouve qu'il s'agisse de l'empereur ou qu'il s'agisse de la population ordinaire. Voilà une entrée ordinaire donc dans Pékin. Oh là là, ça devient dramatique. Là, on est sur l'intérieur d'une cour, mais malgré tous les efforts, je crois qu'il vaut mieux passer outre. Et ces principes donc, que je vous exposais de constitution de l'espace, je pourrais vous les montrer sur beaucoup de villes de Chine. J'ai pris juste deux exemples, l'un qui est Pékin et là Quanzhou, qui était une grande ville de commerce face à Taïwan, pour vous la situer de manière très grossière, et un des relais de la route de la soie maritime. Donc, ville de commerce, on n'est pas là dans un cadre de ville définie de manière autoritaire par l'État, telles que les villes capitales. Nous avons aussi, bien sûr, en Chine, des villes dotées d'un patrimoine extrêmement ancien, ces villes capitales à plusieurs reprises, vous l'avez manqué en projection sur transparent, comme Luoyang, célèbre pour ses grottes bouddhiques, avec là encore des enjeux assez étonnants, comment une ville très riche par son histoire n'a finalement rien à montrer. Toutes ces richesses sont des richesses archéologiques. Et ces villes, des construites et reconstruites à partir de 1950, alors que la Chine sort aussi d'une période d'un siècle et demi de guerre, sont tristement toutes sur le même modèle. Voilà Luoyang, c'est pas très palpitant, ça pourrait être n'importe quelle autre ville en Chine. Voilà Xi'an, on va retrouver là des banalités, des généralités de bâtiments qu'on ne pourrait finalement daté qu'à partir des matériaux de construction utilisés, puisqu'on va régulièrement reconstruire des mêmes bâtiments sur des mêmes emplacements en leur ajoutant quelques étages. Alors ces villes, je vous ai mis cette vue d'avion aux abords de Kunming pour vous montrer qu'on est véritablement sur l'allocation d'un territoire donné à une urbanisation donnée. Ces villes, c'est aussi le lieu où, depuis le 1979, on doit aussi limiter la population, puisqu'on sait qu'elle est déjà très nombreuse, et voilà les publicités encourageant à n'avoir qu'un enfant, tel qu'on les voyait dans toute la Chine. Or, effectivement, qu'est-ce qu'une ville comme Shanghai, qui était une ville par excellence, comment passe-t-elle ce cap des années maoïstes? C'était une ville par laquelle on arrivait par le fleuve, le Huangpu, avec toute cette façade urbaine et ces grands bâtiments des banques, des douanes, qui étaient l'emblème de la ville. Curieusement, toute cette architecture qui a été bâtie sous l'époque des concessions va être conservée pendant le gouvernement maoïste. C'est précisément les années 90 qui vont la bouleverser complètement. Cette ville qui a été gérée par trois autorités distinctes, sous la concession française, sous la concession internationale, territoire chinois, donc trois gestions concertées, va être profondément bouleversée avec la modernisation des années 90. Elle s'était développée le long d'une rivière, la rivière Suzhou, qui est ici, avec toute une desserte via les rivières et les canaux du pays intérieur, et en tant que port, vers les pays extérieurs. C'est une ville où on avait deux étages et, exceptionnellement, Là, c'est un hôpital. On arrivait à monter à 10 étages. C'est des photos de 1985, hein, je précise, parce que vous pourriez croire qu'elles sont plus anciennes. Mais voilà donc le paysage urbain de cette ville qui avait 5 à 6 millions d'habitants donc en 1980. Quels sont les problèmes auxquels on est confronté alors à Shanghai? Et ça, c'est un problème qui est récurrent, je dirais, dès l'ouverture de Shanghai à l'étranger. On manque de logements. On a, en 1949, 5 millions d'habitants, dont un grand nombre qui habitent dans des taudis, qui étaient une main-d'œuvre. Avec l'appui des experts soviétiques, voilà ce qui est prévu au début des années 50, c'est d'étendre la ville qui était ici, environ, dans ce périmètre-là, de la tripler pratiquement, de l'autre côté de son fleuve qui fait 500 mètres de large, sur ce plan gigantesque. Les Chinois ne le réaliseront jamais. Ce plan est beaucoup trop consommateur de terre. À la place, on va réaliser, donc sur cette ville, voilà son emprise dans les années 40, 50 et 80, toute une série de logements en périphérie, tout en préservant ce qui existait, de manière à pouvoir répondre à la demande la plus forte, c'est ce type de logement. Et puis, on incite aussi la population à pouvoir construire des logements en leur fournissant des conditions pour avoir des matériaux, faciliter justement le relogement rapide d'une population assez déshéritée. Et on a également l'héritage de ce qui existe, avec des intérieurs qui vous montrent les conditions d'habitation. Si on a un volume assez ample, vous avez dans une pièce une famille qui y habite. C'est-à-dire qu'en 1985, la surface habitable par personne à Shanghai est de l'ordre de 4 mètres carrés et demi. Surface habitable, c'est-à-dire les pièces à vivre. Salle de séjour, on dirait, et chambre, puisque souvent, ce qui est de l'ordre de la cuisine, des sanitaires, sont partagés. Alors là, on est à l'intérieur du logement que je vous ai montré, parmi les meilleurs. On peut avoir un petit peu au-dessus. Tout ça, c'est le milieu des années 80. Et puis, on a aussi les logements plus populaires, où une partie du manque d'habitation se gagne du coup sur la rue, avec des intérieurs plus traditionnels, comme vous le voyez, des mobiliers anciens, des instruments de musique, les calligraphies en sentence parallèle, vous reconnaissez les thermos qui ont au-dessus d'eux une peinture traditionnelle, ou encore un peu plus dépourvu, ou sorti de la table, des chaises, de la thermos et de la bassine. Voilà les conditions de vie d'une partie des habitants. C'est aussi, pour arriver justement à loger tout ce monde, le fait qu'on ajoute des points d'eau pour chacun. Avec, je ne sais pas si on va arriver à le voir, là vous avez un point d'eau, deux points d'eau qui sont sur une ruelle et trois ou quatre robinets, ce sont les points d'eau qui concernent chaque famille et des compteurs individuels. Sans commentaire, ça vous montre la densité d'habitation des villes. Alors, c'est les années 80, donc à Shanghai, on est face à trois problèmes majeurs. Le manque de logement, je vous ai dit ce chiffre, 4 mètres et demi de surface habitable par personne, 6 millions d'habitants, des transports saturés et une pollution industrielle extraordinairement forte, dans la mesure où Shanghai était une ville industrielle, représentait 20% du PIB du pays en 1949, et qu'on a une structure industrielle qui est celle du début du XXe siècle et qui n'a pas bougé, encore au milieu des années 80. Le logement, on en a construit, je vous ai montré. On reste néanmoins avec un fardeau très lourd pour l'État, puisque ce sont les unités de travail, les Danway, c'est-à-dire l'organisme où travaille le Quidam shanghaïen, qui est chargé de lui fournir un logement. Or, le loyer représente l'équivalent des dépenses d'un ménage en tabac ou en thé, peut-être le cinquième, c'est-à-dire trois cacahuètes. Vous imaginez que si le logement est considéré comme une prestation sociale, en quelque sorte, qu'on a néanmoins une population qui vit dans des conditions aussi serrées, comment faire ? Comment faire pour arriver à résoudre ça ? Ce ne sont pas les loyers qui permettent d'assurer la maintenance, donc encore moins de pouvoir assurer la construction de nouveaux bâtiments, sauf pour quelques entreprises qui sont particulièrement riches et productrices. Si on prend l'industrie métallurgique ou pétrochimique en périphérie de Shanghai, il n'y a aucun problème. Si vous travaillez dans une école comme instituteur ou au dispensaire, il est certain que votre dispensaire ne va pas être créateur de richesses permettant de vous accorder un logement d'une certaine superficie. Donc on se trouve dans un cadre de conflit majeur entre des objectifs qui sont quantifiés et une inadéquation avec la planification urbaine. Une des raisons de ceci, c'est aussi que ces fameuses villes qui sont des territoires administratifs ont des limites qui font qu'à l'intérieur d'un arrondissement rural, vous avez de la population urbaine. Et tant qu'elle n'est pas considérée comme urbaine, elle ne peut pas être prise en compte dans la planification et dans les projets. Ce qui vous donne cette certaine aspect de vacances permanente dans la ville des années 80, où on peut très facilement faire la sieste dans la rue. Mais on se préoccupe déjà de pouvoir améliorer le transport et notamment de construire un tunnel qui va permettre de passer de l'autre côté de cette fameuse barrière qu'est le fleuve. Vous avez ici un immeuble, un bel immeuble de 5-6 étages qui faisait une avancée sur rue de manière à pouvoir laisser passer le tunnel. On lui coupe son avancée, on élargit la rue. C'est le même. Il y a juste 5 à 10 ans de différence. Et on est donc dans ces petits ajustements au cours des années 80. Au cours des années 80, on met également en place, en 84, le premier schéma directeur sur la ville. Il s'agit, à l'époque, on dit que l'ensemble de la municipalité de Shanghai représente 12 millions d'habitants, que la ville, qui est ici, en représente 6 millions. Et dans les projections pour l'an 2000, il y a 2 ans, on disait qu'il y aurait une augmentation sur l'ensemble du territoire d'un million d'habitants, avec 6 millions et demi sur la ville, et 6 millions et demi sur la population rurale donc, qui est autour. Or, vous avez lu comme moi les journaux, et vous savez que déjà bien avant l'an 2000, on disait que la population de l'ensemble de la municipalité de Shanghai était de plus de 16 millions de personnes. Que s'est-il passé ? Je vous rassure, toujours avec la même limitation des naissances à un enfant par famille. On va déjà agrandir et prendre en considération c'est les superficies que vous avez ici en grisé sur les arrondissements de Shanghai qui étaient déjà urbanisés et en 84 on va décider que ça devient des arrondissements urbains. Donc c'était une pratique que nous on connaît moins chez nous. Paris a toujours les mêmes limites depuis plus d'un siècle. C'est qu'on on repousse les limites d'un territoire pour pouvoir répondre à des objectifs. Mais plus importante rupture, ça va être quand à la fin des années 80, Shanghai va chercher l'appui des bailleurs de fonds internationaux pour construire les grands équipements dont elle a besoin. Et dans un premier temps, une étude des transports commanditée par la Banque mondiale va créer un grave conflit au sein de la municipalité. Pour mettre en place un plan de transport, il est important de savoir quelle est la population qu'on a à transporter. Entre-temps, les outils SPOT, le travail d'après les vues satellites, permettent de connaître à peu près les configurations des villes. On est loin ici, vous avez ici le Yangtze qui coule là, donc là le Huangpu et en noir tout ce qui est urbanisé. On sait déjà qu'il n'y a pas à l'intérieur de ce noir 6 millions d'habitants, plus probablement 9. On commençait par là à voir que ce fameux cloisonnement entre les commissions du plan, commission de l'urbanisme, n'était plus gérable et qu'on ne pouvait plus faire de la planification pour des objectifs qui ne correspondaient pas à une réalité. Premier tremblement de terre. Deuxième tremblement de terre, je vais vite, hein, je vous fais pas. J'ai passé 20 ans à étudier Shanghai, je vous passe sur Shanghai en 2 minutes ici, mais c'est pour que vous en compreniez les points de rupture fondamentaux. À partir du moment où la municipalité l'a accepté, l'a fait accepter au niveau central, où le schéma directeur que je vous évoquais a donc pu être à la fois approuvé et remis en cause, le EE que je vous évoquais en début de temps, on a décidé qu'effectivement, en 1990, on pouvait aménager toute cette zone qu'on appelle Pudong, qui permettrait de rééquilibrer Puxi, la ville de Shanghai construite, qui était un peu trop engorgée. Et ce qui a été prévu par le plan quinquennal a effectivement été réalisé. Par les différents plans quinquennaux, le 9e plan quinquennal allait de 96 à l'an 2000, on avait toute une série d'objectifs à réaliser en termes de fourniture, d'énergie, de transport, etc. L'ensemble de ces points ont été faits. Et en même temps, on est revenu constamment sur les plans d'aménagement. Ce qui était essentiellement nouveau, c'est qu'on mettait en face non plus un objectif quantifié, mais on prenait en compte les conditions concrètes d'habitation des gens qui permettent, à partir de là, d'élaborer des projections et des projets urbains. Shanghai, en ce sens, a été complètement leader. Elle a, pour ce faire, délimité des entités administratives qui avaient la gestion d'un territoire. Et on est en quelque sorte en train de revenir sur un point qu'évoquait Yves Chevrier lundi, à savoir la mise en place d'un aménagement concerté tel qu'on l'avait déjà évoqué à Shanghai même sous le gouvernement nationaliste en 1927-1937. Dans la mesure où, à des objectifs de développement, on mettait en face des propositions d'aménagement et non pas une proposition d'aménagement en face d'un objectif quantifié. Vous me suivez ? Donc, à partir du moment où la municipalité prendre telles options. On est dans un pays où le pouvoir est autoritaire, je ne vous apprends rien. Un paysage comme celui-là, qui est celui de Pudong, en 1985, des usines, des entrepôts, de l'habitat, il y a 800 000 personnes qui vivent sur ce territoire de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Si en 89, on a guère évolué, j'ai juste mis la couleur pour donner une touche un peu plus moderne. Par contre, 10 ans plus tard, on a ça. Et alors là, on se dit, comment c'est possible ? J'y viens. D'une part, sont mis en place des objectifs raisonnés. Pour pouvoir construire une zone d'aménagement sur 520 km², l'équivalent de la superficie de Singapour, on a besoin d'infrastructures. Pour ça, on a besoin de mobiliser la communauté internationale. Et vous avez donc, là encore, au niveau de la municipalité, des décisions concertées qui sont prises avec la mise en place d'opérations de ce type assez spectaculaires. Ce pont a été construit en 3 ans, déménagement des entreprises y compris. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on décide en France d'aménager le front de Seine, entre le moment de la décision Et le moment où on peut commencer le chantier, il faut 10 à 15 ans. Compte tenu des mesures d'expropriation, d'indemnisation, etc. L'avantage, si on peut dire, d'un tel régime, c'est qu'à partir du moment où une décision est prise, elle peut être appliquée avec une efficacité sans pareil. Donc, non seulement en termes d'aménagement global, mais en termes, je dirais, d'infrastructures lourdes, avec des ponts pour franchir ces 500 mètres de fleuve, mais aussi des viaducs, des périphériques en centre-ville, le métro, 3 lignes en 5 ans, et face à cet engorgement de la circulation, l'élargissement de certaines voies avec la création de passerelles pour les piétons. L'agrandissement de certaines voies au détriment de leur qualité urbaine. Voilà le boom de toujours cette façade sur le Rangpont en 85, et voilà ce qu'elle est devenue. 10 ans plus tard, on a coupé les arbres, on a surélevé le bord du fleuve, on a enlevé les bateaux, en bref, on a coupé la ville de son fleuve. Alors comment tout cela a-t-il été possible? Il y a eu des changements profonds qui datent non pas de 1990, mais qui ont été enregistrés dès 1978 au plus haut niveau de l'État. Je vous donne juste quelques éléments de repère. En 1978, la Constitution est modifiée par l'Assemblée nationale populaire et entrevoit la possibilité que les droits d'utilisation du sol puissent être cédés. L'année suivante, on considère qu'une joint venture peut, dans l'actif apporté par la partie chinoise, inclure le terrain. En 1988, 10 ans plus tard, on a à Shanghai la première cession aux enchères d'une parcelle dans une zone économique spéciale près de l'aéroport, qui est achetée par un Chinois du Japon, un Chinois d'outre-mer, la nationalité japonaise, et ça va être le début de la période de la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que tous ces gros travaux d'infrastructure que vous avez vus ont en partie été payés grâce aux revenus issus de la cession des droits d'usage du sol que les municipalités ont mis en place. Certaines villes, comme dans le sud, l'ont mise en place sur des territoires restreints. Shanghai l'a mis en place de manière plus large, avec ses effets en centre-ville. On est sur la rue de Nankin, ici, proche des grands magasins. Et vous voyez là ce petit habitat sur un ou deux niveaux face aux grands magasins des années 30. Et là, ce terrain vague qui laisse place à cette recherche de modernité. Alors, toute la ville y passe. Ça a permis non seulement de construire Pudong, mais par l'effet de spéculation et de bulles financières, on s'attaque aussi au centre de la ville. On est là dans un des quartiers les proches d'un site classé, qui est le lieu de la réunion du Parti communiste. Et voilà l'autre côté de la rue. Certains de ces terrains restent en jachère. Voilà ici, par exemple, un quartier qui devait faire l'objet d'une protection qui a été racheté par une compagnie qui a fait faillite. On est en 1996, le même site en 1999. On a juste, la municipalité a remis en œuvre une certaine voirie, c'est maintenant un des marchés du faux. Il y a aussi des chantiers beaucoup plus marquants, comme les chantiers qui ont été faits pour, en termes de communication. On n'avait pas de place dans l'espace traditionnel chinois. Là, c'était l'ancien hippodrome, devenu place du peuple et jardin. Et ça devient le centre de la ville et une véritable place publique. Là encore, une nouveauté dans la constitution de la ville chinoise, avec le musée que vous voyez ici, et puis donc l'ensemble des opérations immobilières qui sont mises en place avec le processus que je vous ai décrit. quelques bâtiments de prestige sur lesquels les villes cherchent maintenant à fonder leur identité, puisqu'on est avec la fin des années 90 en cette recherche d'une identité des villes en même temps qu'une recherche d'une histoire locale. Cette recherche d'une histoire locale, elle se fait à la fois par l'architecture contemporaine et l'usage du superlatif le plus haut, le plus cher, la portée la plus impressionnante, mais elle se fait aussi à travers la recherche d'une identité locale. Et quand on voyait sur le site de Poudon, que je vous montrais tout à l'heure, ce petit bâtiment il y a 10 ans, on nous disait « cette ferme va être gardée, c'est un patrimoine ». Eh bien, voilà ce que cette ferme conservée est devenue. Ce n'est pas tout à fait le même bâtiment, mais à peu près, c'est une interprétation du bâtiment précédent. Et c'est le musée de développement du quartier de Tours que vous venez de voir. Alors, cette recherche d'une identité, elle se fait aussi par rapport au centre-ville, et notamment, là, on est proche du Jardin U, un des lieux très touristiques de la ville. En 1985, vous voyez la hauteur moyenne des toits derrière ce petit pavillon T. On est à maximum R+4, donc 4 à 5 niveaux. Et voilà la réinterprétation de cette ville ancienne avec... sur aussi 4 ou 5 étages, une architecture en béton qui devient la nouvelle ville ancienne. Si vous ne me croyez pas, voilà cette ville ancienne en construction, avec son arrière-plan. Donc des façades imitées de l'architecture, d'une architecture qui se veut ancienne, mais qui en fait n'a aucune caractéristique de Shanghai, et qui devient un quartier commerçant. Alors, c'est on est là avec des phénomènes qui sont assez contradictoires. On a vu que le foncier, qui était conçu comme un des outils de la réforme économique, le ministre de la Construction l'avait dit en 1992, la cession des droits d'usage des terres doit devenir le fer de lance de l'économie. Je vous donne maintenant le leitmotiv des décennies à venir, c'est le tourisme. Vous comprenez maintenant pourquoi on a cette recherche d'une identité qui se construit. Mais comme je ne voudrais pas finir sur une touche négative, je voudrais aussi vous montrer j'arrête peut-être les diapos. Vous savez pas sur quoi. Je ne connais pas votre appareil. Je ne voulais pas vous en occuper pendant que je pars. Où est passé sur quoi? Il était branché. Non. Je dois avoir fini dans 5 minutes. J'ai besoin d'images, oui. Donc, face à cette fascination de la modernité, j'en profite juste pour vous lire, parce que c'était assez amusant. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps, dans cette collection publiée par Monôme, Jean-Paul Sartre découvrant la ville américaine. Et finalement, ça pourrait très bien s'adapter à la ville chinoise. Donc, c'est des articles écrits en 1945, Le temps qu'on trouve comment avoir accès au CD. Il s'opère continuellement des changements sur place. On achète un immeuble pour le démolir et bâtir un immeuble plus grand sur le même terrain. Au bout de 5 ans, on revend ce dernier à un entrepreneur qui le jette bas pour en construire un troisième. Le résultat, une ville de là-bas est pour ses habitants un paysage mouvant, tandis que pour nous, nos cités sont des coquilles. Je vous parle des États-Unis vu par Sartre, hein, je ne vous parle pas de la Chine. Mais finalement, nous changeons donc dans des villes immuables et nos maisons, nos quartiers nous survivent. Les villes américaines changent plus vite que leurs habitants et ce sont eux qui leur survivent. Nous vivons ordinairement dans les demeures de nos grands-pères. Nos rues reflètent les usages et les mœurs des siècles passés. Elle tamise un peu le présent. Rien n'est purement présent de ce qui arrive dans la rue Montorgueil ou dans celle du Pot-de-Fer. Mais eux, ils vivent à 30 ans dans des maisons qui ont été construites quand ils en avaient 20. Une ville, pourtant, c'est surtout un passé à nos yeux. Pour eux, c'est d'abord un avenir. Ce qu'ils aiment en elle, c'est tout ce qu'elles ne sont pas encore, ou tout ce qu'elles peuvent être. Sur la rue aussi. On a tort de visiter les villes américaines comme on visite Paris ou Venise. Elles ne sont pas faites pour cela. Les rues n'ont pas ici la même signification que les nôtres. En Europe, une rue est intermédiaire entre le chemin de grande communication et le lieu public. Elle est de plein pied avec les cafés, comme le prouve l'usage de la terrasse, que ceux-ci poussent sur les trottoirs au beau jour. La rue américaine est un tronçon de grande route. Elle s'étend parfois sur plusieurs kilomètres. Elle n'incite pas à la promenade. Et juste pour vous lire quelques passages sur les gratte-ciel et sur New York. New York, aux yeux des Français de ma génération, a déjà la mélancolie du passé. Vers 1925, nous avons entendu parler des gratte-ciel. Ils symbolisaient pour nous la fabuleuse prospérité américaine. Les gratte-ciel, alors, étaient vivants. Aujourd'hui, pour un Français qui arrive d'Europe, ils ne sont plus que des monuments historiques témoins d'une époque révolue. Ils parlent d'une époque où nous croyions que la dernière des guerres vient de se terminer, où nous croyons à la paix. En tout cas, il a fallu pour les construire une fois que nous n'avons plus. Si je vous lis ça, c'est juste en écho à ce que vous entendiez de François de Godemont et de cette fascination par l'Amérique, puisque finalement, cette description que nous entendons qui a un demi-siècle est tout à fait la même en Chine. Donc je voulais finir sur une touche d'optimisme et vous montrer que toujours dans cette coexistence de facettes qui peuvent être contraires, dans le fait qu'on est dans un pays, non pas du ni-ni, mais du où tout coexiste en même temps, je voulais vous montrer des travaux qui étaient faits par des universitaires chinois, mais réalisés avec des autorités chinoises, dans six villes aux alentours de Shanghai. Alors, voilà la... On a ici le Changjiang, le Yangtze. On a ici la baie de Hangzhou avec la ville de Hangzhou. On a ici Shanghai. Vous voyez rien ? Parce que moi, je vois rien parce que je suis en dessous, mais vous, vous devriez voir un peu mieux. Donc, vous avez ici Shanghai et vous avez ici ce qui, à mon avis, est peut-être un des potentiels énormes de la Chine face à cet enjeu qu'elle se donne de promotion du tourisme. Il s'agit fondamentalement du tourisme intérieur, beaucoup plus que nous, occidentaux, allant en Chine, avec des flux considérables. Pour vous donner un exemple, ces petites villes ont de l'ordre de 50 000 habitants, les centres anciens 10 000 habitants, Concarneau. Concarneau, c'est à peu près la même échelle, 10 000 habitants. 10 000 visiteurs jour. 10 000 visiteurs jour, il faut les transporter, il faut les nourrir. Ils produisent quelques déchets. Vous voyez l'impact sur l'environnement. Mais néanmoins, face à ça, nous avons des réflexions à la fois prenant en compte l'histoire, l'environnement, les ressources naturelles. On est dans une région façonnée par l'eau. Le paysage, oh, c'est noir, sur lequel des analyses assez fines sont menées, aussi bien sur les canaux, sur les ponts, sur cet habitat du bord de l'eau, sur les sentiers, les grandes et petites résidences et sur toutes les structures communes. Vous avez donc cette évocation, cette recherche d'une histoire locale à partir de laquelle on peut se bâtir une identité qui est en cours, sur des paysages qui sont effectivement très charmeurs. On est dans un pays qui se définit en anglais comme les villes d'eau vénitiennes, mais où, à l'inverse de Venise, où les marchands affichent leurs belles façades sur rue, là, les richesses sont à l'intérieur. Donc je passe assez rapidement sur ces images parce que c'est juste pour vous en donner une image de la vie quotidienne. Pour vous montrer ici sur une de ces villes l'augmentation du nombre de touristes, l'unité est donc de 10 000 visiteurs et on est à 140 fois 10 000. À 1 400 000 en 2000, une multiplication du nombre de touristes qui est assez considérable avec des pics régulièrement. Il faut savoir qu'en 1995, on est passé à 2 jours de congé hebdomadaire et que donc les Chinois peuvent se déplacer et peuvent consommer. On a du coup toute une production artisanale qui se met en place. Et derrière, une réflexion sur justement comment mieux habiter, comment transformer ces bâtiments, comment remettre en valeur ce qui revient de l'ordre de l'identité culturelle du pays, comme ce fameux théâtre Kunqu, qui fait d'ailleurs partie du patrimoine intangible de l'UNESCO. Donc vous avez des personnes de qualité qui, à la demande des municipalités, peuvent lancer ces réflexions pour faire ces enquêtes sur ces bâtiments et surtout comment conserver les habitants à l'intérieur, comment leur apporter un cadre de vie qui fasse qu'on n'associe pas à l'ancien la misérabilité d'une condition où on n'a pas forcément d'eau, on n'a pas forcément d'électricité. Vous comprendrez peut-être mieux à partir de là pourquoi on veut faire du tourisme un des secteurs privilégiés de développement de l'emploi et pourquoi on a là aussi des situations contrastées, puisque derrière ces études que je vous montre, juste pour que vous sachiez que ça existe, je pourrais passer plus de temps à vous les commenter, mais ce n'est pas l'objet, mais qu'on a face à cette politique que je vous montrais sur Shanghai, on peut également avoir celle-là, que ce sont aussi des autorités locales qui la décident et qu'il y a aussi des techniciens qui la mettent en place. On l'a notamment sur cette carte, un vaste lac qui est ici avec le centre ancien en jaune, la partie à urbaniser qui est ici, là nous, comme on appellerait chez nous les UP ou les AC, les zones à urbaniser en priorité ou les zones d'aménagement concertées. Mais il a été décidé que tous ces abords du fleuve, du lac, resteraient inconstructibles. Donc une perspective de développement durable qui fait partie de ces interrogations actuelles sur le tourisme, sur l'urbanisation et sur comment faire. Pour conclure, je dirais qu'on est sur certains cadres, à Shanghai et dans sa région, déjà sur l'amorce d'une constitution, d'une gestion urbaine concertée. On ne va pas nécessairement, on l'a, mais on ne va pas n'avoir que ça, des rivalités entre arrondissements et gouvernement central de Shanghai. Certes, c'est plus facile d'avoir une réflexion d'ensemble à l'échelle d'un petit territoire comme celui-là qu'à celui d'une ville de 12 millions d'habitants sur lequel chaque arrondissement de 2 millions d'habitants rivalise pour drainer des capitaux, des investissements et accorder de bonnes conditions d'habitation aux personnes qui y sont. C'est exactement le problème qu'on a à Pékin. Vous avez suivi sur la presse la destruction des abords de la cité interdite du quartier de Nanshezi. On est là précisément, rivalité entre plusieurs administrations chinoises et cet impact de la spéculation qui vient au milieu, sur lequel qui a du pouvoir, ce cloisonnement, ces emboîtements hiérarchiques que je vous signalais. On a par ailleurs sur cette perspective de l'urbanisation d'autres menaces, celle du tourisme, cette pression très forte, celle du tourisme qu'on appelle l'industrie du tourisme, comme on parlait de l'industrie du bâtiment, ce fameux fer de lance de l'économie pendant les années 90. Et comme toute industrie, elles sont particulièrement polluantes. Enfin, autre difficulté qui se profile dans les villes, naturellement celle de l'emploi, mais aussi celle d'une population vieillissante. À Shanghai, la croissance naturelle est déjà négative. Bien sûr, si on prend en compte les flux migratoires, on a une croissance positive. Mais on a une population dont les plus de 60 ans vont bientôt passer entre 10 et 20%. Et puis, face à ça, cet enjeu gigantesque qui rejoint celui de la constitution, en fait, d'un État moderne, qui est celui d'une gestion et d'un aménagement concerté. Donc, c'est là où la Chine va avoir à abandonner la plus lourde de ses traditions, c'est que la ville est une agglomération de personnes et pas seulement un territoire administratif. Or, elle a pour ça beaucoup de capacité et de qualité. On l'a vu rapidement sur Shanghai, sur sa capacité de réaction en 10 ans, sur ses environs de Shanghai. Elle en a aussi, je dirais, avec une de ses qualités, que je lisais dans un livre de François Cheng, où finalement, vivre ensemble, la gestion de la multitude, c'est peut-être tout simplement l'apprentissage comment devenir un être humain et comment se doter d'humanité et donc d'urbanité. J'en ai terminé, je vous remercie de votre attention.
Vous parliez donc à la fin de la population vieillissante, bon, ce qui est forcément, disons, une évolution de l'humanité, puisqu'elle devient consciente que la Terre est toute petite, mais comment ils gèrent ça maintenant dans les grandes villes, justement à Pékin, à Shanghai, etc. L'augmentation, disons, des gens, du baby-boom chez nous, quoi, les gens de plus de 60 ans.
Alors, justement, on a là aussi des changements assez profonds. On était habitués à ces titres que nous ont transmis Lao Che, 4 générations sous un même toit. On passe à une société d'une famille nucléaire avec, là encore, des réactions contrastées. Je vous dis ça là aussi d'après des questionnaires et des enquêtes qui ont été faites. Tout le monde aspire au confort et à mieux vivre. Et là encore, on va trouver des réponses du genre, surtout si on est relogé, éloignez-nous de notre belle-mère. Je dirais qu'on est dans un cadre partagé par n'importe quel pays. Mais on va aussi avoir toute la gamme qu'on peut avoir en Occident, avec néanmoins cette importance qui est accordée à la famille en Chine. Et je dirais là qu'un des points d'ailleurs que disent les Chinois avec lesquels on travaille, c'est comment finalement on peut reconstituer tout ça. Après la révolution culturelle, après une génération qui a été bannie de l'université, on a finalement toute une histoire qui est partie. Et néanmoins, on a ce goût et ce regain d'intérêt pour cette histoire. Et d'après ces partenaires avec lesquels on travaille, c'est justement grâce à la famille. Donc, je m'écarte un peu de votre sujet, mais pour vous dire que le champ d'intervention est vaste. Parmi les jeunes architectes chinois que nous recevons et que nous formons au ministère de la Culture à travers un programme qui est destiné à former 150 architectes chinois en France, qui a été lancé par l'ambassade de France à Pékin. C'est une des préoccupations des jeunes architectes. Comment vivent chez vous les personnes âgées? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des ensembles d'habitation particuliers? Si on n'a pas encore la réponse, on a en tout cas la question et les questionnements qui sont à l'étude côté chinois. On a également cette pluralité des offres d'habitation, et c'est là aussi une nouveauté. Avec, sans vouloir vous assaillir de chiffres, mais je trouve ça tellement frappant, un objectif pour les prochaines décennies, c'est d'avoir 20 à 30 mètres carrés de surface habitable par personne. On était à 10 en moyenne au niveau de la Chine en l'an 2000. Donc, un accroissement des conditions naturelles d'habitation assez considérable. Alors, ces personnes âgées vont-elles rester auprès de leurs enfants, auprès de leurs proches? Vont-elles se retrouver dans d'autres manières? Tout est inventé. Et je peux vous assurer que les architectes chinois se posent la question. En tout cas, ils nous disent qu'ils se la posent. Il faut attendre ce que va produire la jeune génération.
Oui, bonsoir, madame. Si vous permettez, deux questions sur Pékin. La première, dans la réhabilitation du vieux Pékin, où on détruit en principe 99% des vieilles maisons, le pourcent qui reste réhabilité est occupé actuellement par les fonctionnaires réquisitionnés. Est-ce que vous pourriez nous dire où loge-t-on les habitants qui sont chassés de ces vieux quartiers ?
Merci de votre question. Elle est effectivement d'actualité à Pékin, mais je me permets quelques petites rectifications sur les chiffres. Si l'ensemble du tissu urbain de Pékin est fortement menacé, on n'est pas, enfin, aux dernières nouvelles, puisque ça change très rapidement, à 99% de destruction. Le relogement des habitants se fait de manière forcée et de manière extrêmement arbitraire. On a là, suivant les villes, des pratiques qui sont différentes. À Pékin, celle qui était en cours l'an dernier, vous aviez un mois pour déménager, une indemnité. Si au bout d'un mois, vous n'aviez pas, ou au bout de 15 jours, vous n'y étiez pas déjà parti, votre indemnité de relogement baissait de moitié, et ainsi de suite, plus on se rapprochait de la date d'évacuation des lieux. Donc c'est aux habitants eux-mêmes d'avoir à chercher leur propre logement, nouveau logement, en fonction des indemnités qu'on leur trouve. Il y a certains cas où on va les reloger. Ce qui est clair, c'est qu'à Pékin, on n'a pas eu d'aménagement concerté comme ça s'est esquissé à Shanghai. Donc tout relogement se fait vers le 4e ou le 5e périphérique, sans qu'il y ait d'infrastructures de transport public qui ait encore été mise en place. Et ce qui est certain, c'est que dans ces fameux quartiers qui deviennent restaurés, puisqu'on a aussi ce discours, on restaure la ville, comme je vous le montrais sur Shanghai, on restaure une vieille ville, mais derrière les termes de restauration, vous avez là encore plusieurs significations. Il est important de s'entendre sur les termes. À travers la presse officielle, vous pouvez entendre Pékin restaure ses rues historiques et ses rues anciennes, et notamment la fameuse rue Liu Lichang, qui a déjà été entièrement refaite en 1986 par ses façades, sans qu'on améliore les conditions des habitants. Donc là encore, si vous venez en Europe, on a à peu près ce consensus sur la définition de la protection des centres anciens, c'est-à-dire un centre ancien sans ses habitants est une coquille vide, c'est une ville musée. Néanmoins, on n'a pas encore trouvé la solution qui permette de garder la population, pour prendre un exemple sur Paris qu'on avait dans le Marais, entre il y a 30 ans et maintenant. Donc on sait difficilement, même en Occident, gérer cette question. Néanmoins, ce à quoi on s'attache très fortement, c'est à conserver la population. Pour beaucoup de décideurs chinois, restaurer, c'est restaurer des coquilles, c'est restaurer des enveloppes. La population ne compte pas. Et là, on est dans cette définition ancienne, traditionnelle, je dirais, de la ville, qui est d'un territoire et non pas d'un groupement humain.
Je voulais vous poser la question de savoir ce que vous pensiez de la construction du barrage sur le Yangtze, du déplacement des populations des villes et aussi justement de l'augmentation de l'eau et de tout ce patrimoine culturel du Yangtze, des gorges, etc., qui va être englouti et qui semble un peu à l'opposé de ce que vous disiez sur le tourisme et le fait de garder certaines choses.
Alors, je dirais comme sans doute 99% des Occidentaux, grande inquiétude sur ce que peut représenter un tel bouleversement, ne serait-ce qu'au niveau écologique, on n'en sait rien. On est là encore dans des logiques du « et » où plusieurs attitudes contradictoires peuvent exister. Vous savez que ce projet a été accepté avec une toute petite majorité à l'Assemblée nationale populaire quand il est passé il y a une petite dizaine d'années. Tout le monde s'en inquiète. Et côté chinois, c'est une décision qui vient d'en haut et sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Côté projet pharaonique, il y en a d'autres qui ont eu lieu précédemment et il y en a d'autres qui sont encore en chantier. Je pense à l'un qui vient, je crois aussi, d'être approuvé, qui est la dérivation par trois canaux des eaux du Yangtze pour approvisionner en eau le nord du pays qui est particulièrement sec. Plus de 1300 km de canaux qui doivent permettre de déverser et d'approvisionner le nord du pays grâce aux eaux du Yangtze et limiter ces inondations. J'avoue là que ce sont des échelles qu'on ne connaît pas en Europe. les échelles chinoises comme les échelles des villes chinoises, nous-mêmes, on a à apprendre beaucoup de savoir comment les choses se font, parce qu'on ne jongle pas avec de telles échelles. Pour vous donner un exemple, on va parler d'une ville moyenne en Chine à 3-4 millions d'habitants. C'est chez nous une métropole. Si vous regardez Bordeaux, 500 000 habitants, c'est en Chine un gros bourg. Donc, en termes de population, dès qu'on retire une unité, dès qu'on retire un zéro, on se trouve à peu près sur des marges similaires. D'autant qu'on va avoir des services similaires. Je dis services en termes d'éducation, hôpitaux, commerce, etc. Mais cette échelle des territoires chinois, fondamentalement, on la connaît très mal en Occident. Et là encore, on ne peut que regarder, chercher à comprendre ce qui se passe, le décrire, et le décrivant finement, l'analyser. J'en reviens là encore à ce que Bitter nous donnait comme grille d'étude pour aller sur un pays comme la Chine. Décrire pour comprendre, décrire pour analyser, et à partir de là, voir qu'est-ce qui se présente à nous.
Je voudrais revenir sur les notions de contrôle de flux de population vers les zones urbaines. Je voulais savoir quels étaient les outils utilisés, et en particulier, comment évoluait la notion de permis de résidence vers les zones urbaines.
Alors, on va avoir des cas très différents suivant les régions où on va se trouver, et des expérimentations différentes. À Shanghai, j'y reviens, pour permettre le développement rapide de Pudong, on a mis en place des systèmes permettant à des populations qui n'étaient pas de Shanghai de pouvoir s'installer à Shanghai. Alors là, j'évoque ce qu'on appelle en chinois le roukou ou en français la carte de résidence, qui affectait une personne à son employeur et au lieu de son emploi, donc limitant les mobilités et limitant, je vous remercie de votre question parce qu'elle est fondamentale, limitant des afflux dans les villes tel qu'on peut le voir dans d'autres pays comme en Inde ou comme en Amérique latine. Donc on n'a pas eu en Chine ce phénomène de favela qu'on pourrait avoir en Amérique latine ou d'importants bidonvilles autour des villes, mais une attention très particulière qui a toujours été portée à maîtriser les flux et à cette gestion de la masse et de la multitude. Il est clair qu'aujourd'hui, où on favorise la mobilité, que ce soit par l'institution des loisirs, d'une société de consommation, où on construit de multiples routes. Je ne vous ai pas donné les chiffres du programme de construction des routes, mais il est lui aussi extrêmement impressionnant pour les deux décennies à venir. C'est-à-dire une mobilité de la population et en premier lieu la population urbaine. Ça veut donc dire que cette question des cartes de résidence que les urbanistes, les économistes, les politologues chinois étudient depuis plus de 10 ans. Faut-il ou non continuer à fixer à chaque personne un lieu de résidence? Elle est aussi au cœur des débats. Donc, sur certains sites, comme à Shanghai, comme à Pudong, on a permis justement ce peuplement de Pudong en enlevant cette obligation d'avoir une carte de résidence de Shanghai. Alors cette carte de résidence, excusez-moi de faire une réponse un peu longue, mais ça a tellement d'implications derrière que j'ai besoin de donner des éléments de compréhension. Si vous êtes dans une ville, vous pouvez bénéficier des services de la ville, en termes de soins, en termes d'éducation, etc. Et on sait que dans les villes, vous avez un meilleur niveau que dans les campagnes. D'où l'importance d'avoir une carte de résidence urbaine. Modifier cette appartenance à un territoire donné via la carte de résidence, c'est aussi modifier très profondément la donne de l'ensemble de la structure de la population en Chine et de son accès à cette mobilité, non seulement sur le territoire, mais à travers l'emploi. Or, parmi les grandes réformes qui sont aussi annoncées pour les décennies à venir, c'est justement mettre fin à l'inamovibilité des emplois d'État. Il est certain que ça aura, là encore, des conséquences par rapport au marché de l'emploi qui est donc en cours de constitution et par rapport au lieu de résidence de fait.
Oui, je voudrais revenir sur Pékin, en ce sens qu'il y a 5 ou 6 ans, dans une conférence comparable, le conférencier nous expliquait qu'il n'y avait aucun souci à se faire pour le vieux Pékin, parce que le plan d'urbanisme de l'époque montrait un certain nombre d'îlots d'ancrage qui, de toute façon, étaient hors spéculation et hors risque de destruction. On voit ce qu'il en est arrivé aujourd'hui, et la vitesse de destruction des Hutong est tout à fait stupéfiante. On peut se poser la question, quand on voit les Jeux Olympiques qui s'annoncent à l'horizon, et quand on voit ce qui se passe dans les villes chinoises où un événement international de première ampleur a lieu. Je prends l'exemple de Kunming, où à part deux blocs qui ont été conservés par la minorité Hubei, il n'y a plus rien du vieux Kunming. Donc ma question est la suivante. Que pensez-vous qu'il va rester du vieux Pékin dans 10 ans? Deuxième question, il est évident que nous ne sommes pas là pour donner des leçons à nos amis chinois, et comme vous le faisiez remarquer tout à fait justement, l'exemple d'opérations du type Marais ne sont certainement pas une preuve que nous savons régler tous les problèmes. Néanmoins, quel devrait être, pour avoir un effet positif, l'attitude de l'intelligentsia entre guillemets occidentale et surtout de l'industrie du tourisme?
Merci de votre question. Elle est fondamentale. Je vais faire un détour par la France, si vous me le permettez. En France, ces centres anciens dont nous sommes si fiers, qui attirent 70 millions de touristes par an, la France est un des premiers pays touristiques au monde. Ces centres anciens, donc, représentent 2 à 3 % de la surface urbanisée totale de notre pays. J'en appelle en quelque sorte à tous ceux qui interviennent dans le champ de la construction. Apporter un peu d'attention à la qualité de vie de nous tous, à la qualité architecturale. Voyez nos supermarchés, ces caisses à savon aux portes des villes. Voyez nos autoroutes et leurs abords. Quand on a cette vision un peu globale, on peut, à juste titre, ne pas forcément être très fier. Je veux dire par là que c'est une décision politique. Et c'est en même temps une décision qui engage chacun de ceux qui a un pouvoir de décision à partir du moment où il dépose un permis de construire. Il en va de même en Chine. C'est effectivement un pouvoir politique, mais ce pouvoir politique est lui-même gêné par plusieurs facteurs. Vous citiez à juste titre Kunming. J'ai pas voulu vous mettre de photo de Kunming. Le Kunming que j'ai pris en photo il y a 20 ans n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Mais sur Pékin, on a, comment dire, plusieurs situations conflictuelles qui se recoupent. J'évoquais le fait qu'un même territoire puisse être géré par plusieurs autorités administratives. Si on prend le cas, si on reste toujours sur Pékin, vous avez des arrondissements, les CHU, qui sont divisés en districts, en CHE. Et sur un district, le bureau de gestion du district peut donner son accord à partir du moment où il y a un projet de redéveloppement sur des destructions de secteurs. Malgré le schéma directeur et le plan de protection des 25 quartiers sauvegardés de Pékin. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'Institut d'urbanisme, le bureau d'urbanisme de Pékin, qui est en train de plancher sur les quartiers sauvegardés. Vous avez d'un autre côté l'ingénierie des transports. Vous savez que les ingénieurs, quel que soit le pays, ont toujours un rôle extrêmement fort. Pourquoi ? Si on fait passer des voitures, ça permet qu'on achète plus de voitures. Vous savez là aussi que c'est un des leviers économiques du développement des pays. Regardez, là je ne vous les ai pas amenés, les chiffres annoncés de la production automobile dans les années à venir en Chine, et qui est un secteur détenu, et heureusement, par l'État, et qui est fixé toujours par le Premier ministre. on peut là encore que n'avoir froid dans le dos. Parce qu'effectivement, plus on permet aux voitures de rentrer dans des centres anciens sans mettre en place une politique de transport en commun, comme ça a été fait par exemple à Shanghai, comme ça a été fait à Paris dès le siècle dernier. On n'aurait pas eu le métro à Paris, il en resterait peut-être pas grand-chose. C'est bien parce qu'on peut permettre à un plus grand nombre de se déplacer, d'avoir des modes de transport distincts. Je ne veux pas dire, loin de moi, cette idée qu'il faut abolir toutes les voitures. On sait bien tout ce que ça nous amène comme confort. Mais c'est cette idée de tolérance des moyens de mobilité et de partage des espaces. Pourquoi, là encore, rester avec une priorité accordée aux voitures ? Si on accorde cette priorité aux voitures, on va donc chercher à créer des routes. Ça fait marcher, là encore, l'industrie des travaux publics. Vous en connaissez le poids, que ce soit dans le secteur national ou international, du BTP et des fabricants de routes, ou de ronds-points, on pourrait dire. Ce ne sont pas forcément des entreprises créatrices de qualité d'espace public. Donc, si vous avez ce lobby qui prédomine au niveau économique industriel, relayé par les ingénieurs des travaux publics, vous avez en face les urbanistes qui, eux, proposent autre chose. Vous avez enfin un pouvoir politique. Vous ajoutez des investisseurs avec des investisseurs qui, eux, peuvent être des relais aussi du pouvoir politique. Ces fameux mandarins rouges qui vont investir sur un quartier donné. Je pense notamment à tout ce quartier au nord-est de Pékin, qui faisait partie, là encore, des secteurs protégés. Et c'était justement le correspondant de Libération, Pierre Aski, qui a été sommé de partir, il y était installé. Et quand il a voulu savoir pourquoi, on lui a dit, bah, écoutez, voilà, mon propriétaire m'a indiqué qu'on était face à un promoteur qui est très, très proche du pouvoir central. Donc, quand vous ajoutez tous ces éléments bout à bout, vous commencez à prendre, à toucher du doigt la complexité du sujet et sur lequel vous avez en même temps différents points de vue qui sont développés. C'est-à-dire que parmi les directeurs du bureau d'urbanisme de Pékin, nombreux sont ceux qui sont demandeurs d'avoir une réelle réflexion sur ces quartiers protégés. Et d'ailleurs, une étude a été commanditée, qui a été faite en des temps records, avec une qualité d'analyse absolument remarquable par différentes universités de la ville sur ces 25 quartiers de Pékin. Mais l'analyse ne donne pas lieu à un retour par rapport au projet, à l'élaboration des projets. Donc on se retrouve dans une phase intermédiaire, je dirais, face à cette... ce début d'une gestion urbaine et d'une gestion urbaine concertée où on isole des îlots dans la ville avec cette étiquette, on va avoir là un lieu historique, un lieu culturel, quitte à le transformer complètement, quitte à lui donner une nouvelle image. Ça va être fait avec énormément de moyens, avec énormément de goût éventuellement, mais ça va devenir une coquille vide. Donc c'est effectivement, excusez la longueur de ma réponse, mais vous voyez la complexité du sujet. C'est effectivement une interrogation à laquelle je ne peux pas répondre. Qu'est-ce qu'il va rester de Pékin dans 10 ans? Tout dépend de l'importance des partis en action. Il y a de nombreuses pressions à Pékin, justement pour éviter... de concentrer ces multiples visiteurs qui vont venir avec les Jeux Olympiques dans quelques champs clos de quelques kilomètres carrés. Ce qui là deviendrait une catastrophe complète pour la ville. Autant, tant qu'on peut circuler dans un espace ample, il peut être un lieu touristique apprécié. Si vous mettez les quelques millions de visiteurs jour qu'on va avoir pour les Jeux Olympiques dans la cité interdite ou dans un ou deux routongs, je plains le gouvernement de Pékin. Très honnêtement, je le plains.
Merci Madame Jed.